Cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. Cette Pologne qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Comberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Marche à genoux, marche à quatre pattes.
4-5 ans, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Et on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM montre aujourd'hui la place de la betterave à sucre dans les exploitations de la région, les conséquences sur les modes de culture et l'orientation de la production entre 1920 et 1975, données qui nous permettront de comprendre la question du travail dans ces exploitations.
Un agriculteur de Nanteuil-le-Haudois nous dit l'importance de la culture betteravière.
On faisait autour de 70 hectares de betteraves. Pour les exploitations de nos importances, ça allait, suivant l'assolement et suivant le type de culture pratiquée par l'exploitation, ça allait de 40-50 hectares à 70-80 et même certaines 90 hectares de betteraves. Il est certain que la betterave a été une des cultures qui a été à la base de la richesse générale, je ne parle pas particulière, mais de la richesse générale de la région, parce qu'elle a apporté, ce qu'elle a apporté à l'époque comme progrès au travail de la terre, en tête d'assolement derrière les betteraves, à l'époque où on n'avait pas les possibilités de maintenant, on sortait, c'est derrière les betteraves qu'on sortait les meilleurs blés. Nos exploitations avaient donc tendance à, si possible, à pousser le plus possible la culture betteravière pour une raison économique.
L'évolution des surfaces consacrées aux betteraves à sucre est effectivement en expansion, mais relativement moins que ce que l'on peut supposer, comme le montrent les surfaces relevées pour deux fermes comparables. Pour la première, située dans le Mulsien, on plantait des betteraves sucrières sur 60 hectares en 1921 et 75 hectares en 1950. Dans la seconde, située dans le Valois, en 1931, les surfaces betteravières étaient de 56 hectares et 80 en 1955. C'est-à-dire, dans les deux cas et selon les années, de 16 à 25% de la surface cultivée. Aujourd'hui, dans ces deux fermes, les surfaces sont à peu de choses près les mêmes qu'en 1955.
Mais à quel progrès du travail de la terre l'agriculteur que nous venons d'entendre fait-il allusion?
Partant de l'idée que des labours profonds sont nécessaires à la betterave, car la terre peut ainsi emmagasiner plus d'eau et les racines de la plante aller très avant dans le sol chercher l'humidité indispensable à son développement, les agriculteurs du Valois comme du Mulsien ont utilisé les treuils de labourage à vapeur dès 1912.
L'ancien directeur de la CUMA de Nanteuil se souvient des bribes d'une conversation qu'il eut il y a très longtemps avec un agriculteur de Bouillancy à propos de l'utilité de ces labours profonds.
J'essaie de remettre en mémoire, c'est pas mes paroles et les siennes, pour le profit. Dis oui, mais c'est que chez nous, malheureusement, voyez-vous, nous ne travaillons qu'avec trois chevaux et on laboure à 15 cm. Mais vous, à Bouillancy, je sais bien, parce que moi, de temps en temps, je vais me promener dans la ville et je vois comment vous travaillez. Je vois les treuils de labourage à vapeur qui labourent à 50 cm. Et je mesure les résultats. Chez nous, on laboure à 15 cm, on récolte 15 tonnes de betteraves et vous labourez à 50 cm et vous récoltez 50 tonnes de betteraves.
Nous avons donc interrogé des agriculteurs pour comprendre le fonctionnement de cette machine capable de réaliser des labours qu'aucun attelage n'aurait pu effectuer à l'époque et qui n'a fonctionné que dans les grandes plaines du bassin parisien et de l'Aisne.
Pour labourer, il fallait deux locomobiles, des machines à vapeur que l'on plaçait de chaque côté du champ sur les fourrières, c'est-à-dire les bordures du champ qui permettaient aux attelages de tourner. Il fallait un treuil relié à chaque locomobile, sur lequel était fixée une charrue bascule de 4 à 6 socs. Dans ce cas, 3 socs étaient enfoncés dans le sol et 3 restaient en l'air. Lorsque la charrue arrivait au bout du rang, tirée par le treuil sur des distances de 4 à 600 mètres, un ouvrier donnait un coup de sifflet ou actionnait une corne de brume, partant de brouillard, et les socs étaient renversés. Les locomobiles avançaient parallèlement à la distance d'un rayon et le treuil entraînait la charrue dans l'autre sens. Un ouvrier, assis sur un siège en fer au-dessus de la charrue, était chargé de maintenir le cap grâce à un énorme volant. Il fallait alimenter ces machines en eau et en charbon dans les champs. Les hommes des machines avaient soif aussi.
Il y avait une machine à vapeur. Je m'en souviens, c'est parce que... J'allais chercher du vin pour ces gens-là, au bistrot. C'était le commissionnaire. Ça nous intéressait, après l'école, on allait voir. Avec un sou trouvé, là, on avait un paquet de bonbons. Ça.
Le système de labourage à vapeur a été impulsé dans la région par des agriculteurs qui, vers 1908, se rendirent en Angleterre pour voir les locomobiles construites par la société Folwell. Mais pour amortir, il était nécessaire qu'il effectue au minimum 300 hectares l'an, ce qui dépassait les besoins d'un agriculteur. D'où la création simultanée en 1908 et 1912 de petites sociétés regroupant des voisins pour limiter les déplacements sur route. C'est ainsi que sont nées la Mulsienne, société de labourage à vapeur, dont le siège était à Bouillancy, la société anonyme de labourage à vapeur de Crépy, une troisième à Barbry et d'autres dans le nord de la Seine-et-Marne, dont une à Saint-Pathu. Le labourage à vapeur se poursuivra jusqu'en 1940, stoppé net par l'impossibilité de se procurer du charbon. Les surfaces de betteraves chutent alors de moitié. Rapidement, le sucre, même rationné, manque cruellement pour les civils, mais aussi pour l'armée d'occupation. Dès 1941, le ministère de l'Agriculture réactive les labours profonds. Mais cette fois-ci, les treuils seront actionnés par l'électricité. Des lignes électriques seront posées au milieu des champs pour actionner les moteurs puissants qui enroulaient le treuil. Ces treuils de labourage électrique seront utilisés jusqu'en 1952, puis remplacés par des tracteurs. Par le jeu de la rotation des cultures, les betteraves revenaient tous les 4 ans sur la même parcelle. C'était donc toutes les terres cultivées qui, au fil des années, bénéficiaient non seulement des labours profonds, mais aussi de l'apport considérable de fumier épandu sur les terres à betteraves. 30 à 40 tonnes l'hectare en 1950, auxquelles il faut ajouter les engrais de fond et les gadoues vertes qui étaient livrées par train entier. Sous ce joli nom de gadoues vertes, il s'agit en fait des ordures ménagères de Paris et de sa banlieue. Avant l'ère des emballages plastiques et de l'alimentation par boîtes de conserve interposées, du temps où le contenu des poubelles était essentiellement composé de déchets d'épluchures de légumes. Pour fournir une telle quantité de fumier, le traditionnel troupeau de moutons qui était entretenu dans la plupart des fermes ne suffisait plus. Et nous trouvons là une seconde conséquence de la culture betteravière sur l'économie des exploitations, qui est le développement de l'élevage bovin comme spéculation. Jusqu'à la Seconde Guerre, le cheptel bovin se limitait à quelques vaches pour l'autoconsommation et au bœuf de travail.
Un agriculteur nous parle d'une ferme de Saint-Patu.
Mais déjà, l'arrachage, ça demandait des gros moyens de traction, qui fait qu'il fallait, dans les fermes, il y avait les attelés de chevaux, d'abord déjà fort renforcés, parce qu'il y en avait besoin pour les labours, etc. Mais, si vous voulez, on achetait des bœufs maigre en Gascogne, avant la récolte, qui servait à débarder les betteraves avec des tombereaux, etc. Et après ça, l'hiver, on les engraissait avec la pulpe et on les revendait en viande.
Au début des années 50, l'engraissement des bovins deviendra une spéculation à part entière, toujours pour avoir suffisamment de fumier, mais aussi pour sa rentabilité. Le même agriculteur raconte.
Bon, et puis alors les betteraves, elles avaient aussi une autre liaison. Dans l'entreprise, c'est qu'il y avait la pulpe. Et ça, c'était pas quelque chose de négligeable dans le passé, parce que ça permettait d'élever, d'engraisser des bœufs dans toutes les fermes, enfin dans tout. Nous, on l'a fait aussi. Vous aviez fait ça. En dehors du problème dont je vous ai parlé au point de vue traction, enfin, d'une période plus récente. Et on achetait des broutards, des veaux maigres, enfin des tourillons maigres dans le Morvan, en charolais, puis on les engraissait ici et on avait des bouchers à la villette tout à côté. Et si vous voulez, c'est à un moment où ça a arrêté d'être intéressant parce que le maigre c'est trop cher. Donc on ne faisait pas la marge suffisante. Mais on avait quand même un sous-produit, la pulpe. Et puis la pulpe fraîche, maintenant surpressée, c'est un peu mieux. C'est quand même des gros coûts de transport et puis de main-d'œuvre. À partir du moment où la main-d'œuvre a commencé à grimper, hein. Et puis il fallait trouver des gars qui valaient bien aller se mettre tous les matins et tous les soirs dans la pulpe. Il y a aussi des éléments comme ça. Hein, qui... Mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, les betteraves de continuer à être. Mais ça a été certainement un facteur de développement pendant un certain temps, parce qu'on avait un sous-produit sur place.
Au cours des interviews confirmant les orientations de cette ferme de Saint-Patu, nous avons rencontré un exploitant qui, dans les années 50, engraissait chaque année 200 bœufs qui passaient l'hiver sur les fumières. D'autres, moins nombreux, n'ont pas choisi cette solution, mais ont aussi développé l'élevage bovin en constituant un troupeau de vaches laitières. Enfin, pour comprendre les raisons de la relative stabilité des surfaces consacrées aux betteraves sucrières, il faut aborder ici le problème compliqué de l'augmentation des rendements et des risques de surproduction. Ou dit autrement, comment les planteurs de betteraves seront amenés à accepter la limitation de leur production bien avant que ce problème se pose pour d'autres secteurs de l'agriculture. Si on fait abstraction des années de guerre, on constate que la culture betteravière, de mieux en mieux maîtrisée, a eu pour résultat une augmentation constante des rendements. Avant 1939, ils étaient de 30 tonnes hectares et s'élèveront à 47 tonnes en 1967. Il s'agit bien là d'une moyenne nationale et non des rendements de pointe qui étaient bien supérieurs sur telle ou telle exploitation. Dès 1930, à la suite de conditions climatiques exceptionnelles, on assistera à une crise de surproduction sans précédent, alors que les cours mondiaux du sucre étaient au plus bas. Devant un tel danger, les responsables de la CGB, Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, proposèrent au gouvernement un plan de contingentement adopté en 1931. À partir de l'estimation du volume global de sucre nécessaire, chaque usine, en fonction de son importance, pouvait produire une quantité de sucre donnée qui correspondait à tant d'hectares de betteraves. L'accord signé en 1931 fixait le mode de répartition du contingent de chaque usine entre les agriculteurs. Des mesures identiques seront prises en 1934 pour la production d'alcool de betterave. C'est à cette époque que se multiplieront les syndicats regroupant les planteurs d'une usine pour négocier la répartition du contingent et contrôler la réception des betteraves.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le système de contingentement sera abandonné à cause de la pénurie de sucre. Les années suivantes seront une période d'expansion. Mais à cause d'une nouvelle année exceptionnelle en 1960-61, le contingentement sera repris sous le nom de plan de maîtrise, pour enfin trouver sa forme définitive dans le cadre de la naissance du marché commun sucrier, qui, en 1968, instaurera le système des quotas qui réglementent encore aujourd'hui la production betteravière.
Quotas, dont l'ancien directeur du syndicat des planteurs de betteraves de l'Oise nous explique le fonctionnement.
Et les quotas sont... c'est très particulier, il y a plusieurs quotas. Betterave. Il y a ce qu'on appelle le A, oui, qui est le quota à prix plein, qui est payé donc partout en Europe à tel prix, bon, qui représente peut-être, disons, 70% des quotas dans l'Oise, par exemple. 70% des quotas distribués sont des quotas. Et puis il y a le quota B qui fait 20%, si vous voulez, derrière, qui est avec une diminution de 25% du prix. Puisqu'on ne peut pas faire du tir à la cible avec la culture, c'est pas possible. Et puis, ce qu'on appelle le quota C. Alors, le quota C, c'est le quota qui est à la charge des parties qu'ils n'ont produit, alors que ce soit dû aux excédents, parce qu'il y a une très grande récolte, ou volontaire. Il y a des gens qui volontairement faisaient du C pour essayer de gratter quelque chose. Et ce quota C était payé au cours mondial.
Cette explication, illustrant le cycle infernal de l'augmentation des rendements qui bute sur le développement plus lent de la consommation, mais aussi sur fond de concurrence internationale et de fluctuation des cours mondiaux du sucre. Cette analyse trop succincte nous rappelle que dès 1931, les planteurs de betteraves furent les premiers à maîtriser le problème de la surproduction agricole en acceptant de limiter les surfaces betteravières pour conserver des prix de vente acceptables.
C'était L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, la place de la betterave à sucre dans les exploitations de la région. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.